Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Grégory, bonjour à tous.
À la une, les cartes rebattues en Syrie.
Quand on fait l'historique de la guerre en Syrie au cours de ces dernières années, il est bien difficile de s'y retrouver. La guerre syrienne se conjugue au pluriel, en effet, constate Libération, il y avait déjà l'assaut du régime contre les révolutionnaires, l'opération de la coalition internationale contre le groupe État islamique, l'État islamique contre tout le monde, Israël contre les alliés de Téhéran, Téhéran en soutien à Bachar al-Assad, Bachar al-Assad appuyé par Moscou, Moscou contre les groupes rebelles modérés et ceux financés par Doha ou Riyad, les islamistes contre les islamistes, contre les Kurdes, les islamistes désormais partenaires du régime contre les Turcs.
Qui plus est, rajoute le Figaro, les événements qui se précipitent dans le nord de la Syrie rebattent les cartes bien au-delà des zones kurdes.
Il consacre après 9 ans de guerre l'amère victoire de Bachar el-Assad qui, au prix de quelques 500 000 morts, 2 millions de blessés et 6 millions de déplacés, est en passe de reprendre la main sur la totalité du pays. Avec lui triomphe Vladimir Poutine. Relève encore le Figaro. 4 ans après avoir sauvé le régime syrien de la déroute, il reste le seul parrain régional capable de faire pièce aux ambitions expansionnistes de l'Iran et de la Turquie. Au final, donc, soupire le Figaro, le piteux retrait américain esquissé par Barack Obama et accéléré, toute honte bue, par Donald Trump. Ce retrait va sceller la réconciliation de Damas et d'Ankara sous les auspices de Moscou. Les Kurdes en feront les frais. Assad garantissant à Erdogan qu'il se chargera de neutraliser leurs espoirs d'autonomie en échange de l'arrêt de l'offensive turque à quelques poches sur la frontière.
Et en attendant, s'exclame Sud-Ouest, voici donc dans ce Moyen-Orient ravagé de guerre et de malheur ces images de femmes éplorées sur les corps inertes d'êtres chers.
Oui, voici ces cris, ces sanglots qui semblent transpercer les photos et les images. On songe à ces tableaux de maîtres italiens peignant la déploration, ces femmes pleurant le Christ en croix, puis sa déposition. Aujourd'hui, Marie et Marie-Madeleine sont kurdes, s'exclame encore Sud-Ouest, scène biblique éternellement rejouée sur ces terres qui semble voué à la tragédie. On pourrait y peindre, poursuit le journal, Recep Erdogan, en nouveau Judas, trahissant ses alliés sans vergogne pour quelques deniers électoraux. Donald Trump en Ponce Pilate, se lavant les mains des conséquences de la décision désastreuse qu'il a prise en annonçant le retrait de ses troupes, voire Bachar al-Assad passant soudain du rôle de mauvais larron à celui du bon larron, puisqu'il se précipite au secours des Kurdes pour des raisons dont on devine qu'elles ont peu à voir avec la philanthropie. Bachar al-Assad, l'un des grands gagnant de ce conflit, et pourtant, soupire la Nouvelle République, il y a un peu plus de 4 ans, François Hollande expliquait qu'il ne pouvait y avoir de solution en Syrie en proie à une guerre civile meurtrière sans départ de Bachar al-Assad, et la voix de l'ex-président de la République n'était pas la seule dans le concert international, mais seulement voilà, les guerres ont ceci de dramatique et les relations diplomatiques de cyniques, pointe la Nouvelle République, qu'elles peuvent parfois remettre en selle ceux qui ont été mis au banc des nations pour leurs exactions.
À la une également, Frédéric, la victoire du conservateur Kaïs Saïed à la présidence tunisienne.
Une victoire lourde d'interrogations, pointe Le Monde. La jeunesse du pays s'est massivement mobilisée pour ce juriste constitutionnel qui prône une révolution institutionnelle, un conservatisme moral et religieux et un souverainisme diplomatique. L'Europe va devoir composer avec cette nouvelle Tunisie qu'elle avait peut-être trop fantasmée à travers le prisme de son paradigme libéral. Kaïs Saïed n'est assurément pas pour elle un candidat de rêve, conclut Le Monde, mais il exprime sans ambiguïté aucune les aspirations de la majorité des Tunisiens. Alors comment parviendra-t-il à appliquer son projet, s'interroge en écho Le Figaro. Kaïs Saïed n'a présenté aucune liste aux élections législatives du 6 octobre dernier. Il ne pouvait pas, il veut changer le système parlementaire, donc il se devait d'être cohérent, justifie l'un de ses conseillers. Le nouveau président élu a reçu le soutien du parti Ennahda, note le Figaro pour première force de la nouvelle assemblée, de la coalition islamo-révolutionnaire Karama, Dignité, mais aussi du courant social-démocrate. Un spectre très large qui rend impossible une union de ces forces. Kaïs Saïed n'en a de toute façon pas l'intention, pointe encore le Figaro. Mon bloc parlementaire, c'est le peuple tunisien, dit-il. Concrètement, en tant que président, je proposerai des lois. Ceux qui les refuseront devront en assumer la responsabilité politique.
On revient à Libération, qui consacre une double page à Esther Duflo.
Oui, l'économiste française, professeure au prestigieux MIT, Massachusetts Institute of Technology, a reçu hier le prix Nobel d'économie, conjointement avec son mari américain d'origine indienne, Abhijit Banerjee, et l'américain Michael Kremer. Tous trois ont été récompensés pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté. Au début de leurs travaux, Entamé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, ces trois-là étaient regardés comme des farfelus. Point de Libération, vivant à des années-lumière d'une science économique dominée par de savants modèles bourrés de mathématiques et autres statistiques.
Alors, s'interroge le journal, qu'est-ce que ces trois chercheurs ont accompli de si spectaculaire ?
Eh bien, quand dominent dans les pays en développement des modèles clés en main pour combattre la pauvreté, Esther Duflo a mis au point une méthode d'expérimentation aléatoire qui permet d'évaluer localement et concrètement, explique Libération, les programmes de lutte contre la pauvreté et répondre à des questions concrètes comme comment rendre plus efficaces par exemple les campagnes de vaccination, comment améliorer l'instruction des enfants à moindre coût, comment lutter contre l'absentéisme des enseignants ou bien des infirmières, ou encore comment évaluer la réussite ou non du microcrédit dans certains pays pauvres. Expérimenter sans relâche pour améliorer la vie des pauvres, c'est ainsi, estime Esther Duflo, que la vie civique pourra s'épanouir dans les pays en développement.